essayer, c'est de faire une étude de cas et de vous présenter rapidement un cas qui, moi, m'a beaucoup intéressé. Mais je commence par quelques éléments de contexte. On estime aujourd'hui que près d'un millier de personnes perdent la vie chaque année en tentant de traverser la frontière qui sépare le sud des États-Unis du nord du Mexique, frontière illégalement militarisée en plusieurs endroits par le gouvernement états-unien. Parmi ces victimes, plus du tiers meurent de déshydratation dans le désert de Sonora, qui est une large zone écologique transnationale, en fait, moins surveillée car naturellement hostile, puisque l'eau y est extrêmement rare, les journées très chaudes et les nuits extrêmement froides. Donc la traversée du Sonora est une marche très dangereuse qui peut prendre à peu près une dizaine de journées et qui est patrouillée à la fois par des milices publiques financées par le gouvernement américain et par des milices d'extrême droite tolérées de fait. Et entre 2007 et 2008, plusieurs personnes ont réussi la traversée du Sonora à l'aide d'un logiciel low-tech installé sur ce qu'on appelle un dumb phone, un téléphone stupide, qui a un logiciel qui s'appelle le Transborder Immigrant Tool. Et ce qui nous intéresse ici, c'est que ce logiciel, c'est un projet de recherche-création qui a été développé à l'Université de Californie, San Diego, à l'initiative d'un groupe de chercheuses et d'artistes qui s'appelle organisé autour du collectif Electronic Disturbance Theater. Et en fait, c'est un outil qui est distribué, on va dire, à l'entrée du désert par des camps et des ONG et qui contient deux fonctionnalités principales. La première, c'est un GPS, donc un radar qui est avec une base de données qui contient notamment les coordonnées GPS des caches d'eau, parce que les associations, les groupes militants cachent de l'eau en fait à certains endroits du désert, caches qui sont détruites par la police quand elles les trouvent. Et ça, c'est une de ses premières fonctionnalités, c'est un système de repérage qui a donc une autonomie d'environ 5 jours, soit plus ou moins la moitié de ce que dure une traversée. Et la deuxième fonctionnalité, c'est un répertoire de textes qui sont enregistrés dans le logiciel et qui ont été écrits spécifiquement pour le TBT, le Transborder Immigrant Tool. Et ces textes, notamment inspirés en fait par la littérature orale native des Yohéme, qui sont des personnes qui ont l'habitude en fait de pratiquer l'écosystème du Sonora. Ces textes, ils combinent une poétique qui a à la fois un souci de survie et à la fois un souci de réconfort. Par exemple, il y a un texte assez connu du TBT qui est un long poème assez simple et assez fluide sur les formes d'un certain cactus qui a la particularité de stocker de l'eau et qu'on peut donc utiliser pour faire une pause et s'abreuver. Ou encore un texte là aussi centré sur une autre plante, hein, basé sur un mythe cosmogonique autour de cette plante qui a la particularité d'avoir des racines dont les plus jeunes poussent toujours vers le nord, donc vers la frontière états-unienne, et qui donc peut servir de système de repérage après l'extinction de la batterie éventuelle du téléphone. Il y a aussi d'autres textes, évidemment, qui sont dans un registre un peu plus militant, des textes sur la notion de frontière ou des poèmes liés à la question de l'exil, notamment. Et il y a deux choses qui m'intéressent dans ce cas, j'abrège un petit peu, hein, je suis désolé. Le premier, c'est la synergie institutionnelle, qui est quand même assez intéressante autour du projet, puisqu'ont participé au projet un informaticien et une microtechnicienne qui se sont occupés de la question du GPS, notamment, et de la base de données. Deux artistes spécialisés en code art. Une géographe spécialiste du désert et de la migration, qui a notamment mis à profit aussi ses contacts avec les personnes de Border Angels, donc les associations qui travaillent à la frontière. Une anthropologue d'origine native, d'origine Yohéme, spécialiste de la tradition orale, justement, que j'ai évoqué un petit peu. Une écrivaine et artiste contemporaine qui s'est chargée essentiellement de l'écriture des textes. Et l'artiste multimédia qui est à l'origine un peu de l'ensemble du projet, qui est Ricardo Dominguez, donc professeur qui enseigne à l'UCLA. Et la deuxième partie qui m'intéresse, donc on pourra peut-être parler après de cette synergie ou de la question de la synergie institutionnelle, mais la deuxième partie qui m'intéresse, c'est la réception institutionnelle et politique du projet. Parce qu'à la base, le projet n'avait pas été particulièrement médiatisé ou pas particulièrement visibilisé. Il avait été diffusé sur le site de l'université comme un projet de recherche-création parmi d'autres, qui a notamment impliqué des étudiantes et des étudiants de Ricardo Dominguez. Sauf qu'une de ces étudiantes a parlé de ce qu'elle faisait en classe à son père, qui était proche des réseaux républicains, et qui a rapidement fait remonter la nouvelle à l'antenne locale de Fox News, donc chaîne de télé conservatrice américaine, qui, pour une raison qu'on ignore, a vraiment monté le dossier en épingle jusqu'à ce que le projet soit mentionné et très vivement critiqué sur les canaux nationaux de Fox News, puisqu'évidemment, de l'argent public est in fine utilisé par des artistes dans les universités pour faire traverser des personnes considérées comme illégales. Là-dessus, Ricardo Dominguez, toujours professeur réputé d'université, a en l'espace de 6 mois, une investigation régionale et une investigation fédérale avec le FBI qui perquisitionne l'université. Il est mis en examen à l'interne de l'université par une procédure disciplinaire qui conduit à une nouvelle perquisition de ses bureaux. Et visiblement, un changement de décanat lui a évité un licenciement qui semblait imminent. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que à partir du moment où les enquêtes se sont révélées sans suite, où la procédure disciplinaire a montré que les budgets avaient été utilisés de manière tout à fait conforme aux objectifs que s'était fixé ce laboratoire de recherche-création, qui évidemment affichait dans son métadiscours la volonté d'un art engagé. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, l'université a changé complètement d'attitude et de discours à l'égard du projet, a commencé à le mettre en avant, a commencé à le valoriser, à l'afficher sur la page d'accueil de son site, etc. Les fonds qui étaient prévus pour la maintenance technique du logiciel, puisque la base de données doit toujours être mise à jour, ont été gelés. Et du coup, j'accélère cette histoire, mais les fonds n'ont jamais été dégelés, les fonds de maintenance technique par l'université, et ont été remplacés par des fonds de diffusion qui visaient à transformer le projet en œuvre d'art, c'est-à-dire à le faire changer de statut en tant qu'objet, pour qu'il puisse être affiché dans des galeries américaines, ce qu'il a été. Mais donc, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que c'est l'université qui a décidé de transformer un projet qui, à la base, était un projet d'artiste centré sur l'action directe en un projet fondamentalement inscrit dans le champ de l'art contemporain. J'avais encore d'autres trucs à vous dire, mais je suppose que je m'arrête là. Voilà, c'était mon cas.